10h45, peut-être pour boucler la boucle là, sur la conversation qu'on vient d'avoir avec le docteur Julien. Là. Le gouvernement Legault, avec Isabelle Charest ce matin, a précisé un peu les détails concernant les sports là, dans les zones jaunes, qui a compté du 26 mars. La limite du nombre de personnes pouvant participer à une même activité sportive extérieure va être fixée à 12. Puis on parle bel et bien de matchs. On parle bel et bien de matchs qui pourront être faits, mais en limitant les contacts. Donc, tu sais, je vous donne les exemples. À mon avis, il va y avoir moyen de jouer au baseball là, dans les zones jaunes là, quand on va quand la saison de, quand est-ce que ça commence la saison de baseball mineur? Ça doit être au mois de mai, quelque chose du genre,
ouais,
Joe.
Dans ce coin-là.
Donc le soccer aussi. Donc ça fait partie de ce qui a été précisé ce matin au cours des dernières heures par la ministre Isabelle Charest. On va aller retrouver notre chroniqueur Myriam Segal. Salut Myriam.
Salut. Je peux-tu vous dire que je suis entièrement d'accord avec le docteur Julien?
Ben oui.
Regarde, si on n'a pas fini de vacciner quand l'été pogne, là, le 24 juin, les gens pas vaccinés resteront chez eux confinés puis donner un été aux enfants.
Ben d'accord. Ben d'accord. C'est le risque calculé puis on est rendu là. Je pense qu'on est vraiment rendu là, Myriam. Là.
Ouais. Ah oui, il faut. Il faut. J'ai des amis qui sont dans le domaine de la psychologie et qui me disent que c'est une hécatombe actuellement, que s'ils voulaient travailler 100 heures par semaine, ils travailleraient 100 heures par semaine.
C'est ça, c'est ça. Myriam, tu voulais nous parler d'un sujet, puis je pense que t'es pas la seule à avoir remarqué ça. Nous autres aussi, ça nous gosse, comme on dit, là, l'espèce de volonté de discours du gouvernement où on dit qu'il faut nationaliser les CHSLD privés.
Ben, la salve est venue des ordres professionnels du Collège des médecins, l'Ordre des infirmières et l'Ordre des infirmières auxiliaires. Ils ont enquêté sur ce qui s'est passé au CHSLD Heron et ils en sont venus à la conclusion que faudrait quasiment nationaliser ça. Or, quand tu lis le rapport, tu t'aperçois que les trois ordres se sont dépêchés de disculper leurs propres membres. Et ils ont fait une charge à fond de train contre l'administration du CHSLD sans essayer de comprendre pourquoi l'administration n'était pas capable, par exemple, de recruter une directrice des soins infirmiers. Sans essayer de comprendre pourquoi, sachant que cet hôpital-là était fragile, ce CHSLD-là était fragile et n'avait pas de directrice des soins infirmiers, pourquoi le 6 de je sais plus quel bout de Montréal, là, à acheter des places dans ce CHSLD-là, qui avait pris la précaution de ne pas remplir. Ils avaient 154 lits à leur permis. Ils en ont mis seulement 138. Donc, ils remplissaient pas parce qu'ils savaient qu'ils étaient en pénurie de personnel. Alors, quand tu fais du vélo puis que tu te plantes en vélo, est-ce que tu abolis les vélos? Non.
Bon,
tu changes ta façon de faire du vélo un peu.
Ouais.
Peut-être que tu roules moins dans la garnotte, que tu regardes où tu vas. Il y a certainement des choses à changer dans les CHSLD privés, mais je trouve que le réflexe de faire du tout à l'État, comme on est en train de le faire d'ailleurs dans les CPE, ça me paraît dangereux. Parce qu'il y en a quand même 105 de ces CHSLD privés-là. C'est vrai qu'ils ont été frappés plus durement, mais les CHSLD conventionnés et publics ont été frappés également. Là.
Ouais, si on était exemplaire, je dirais peut-être, mais je ne suis pas sûr que ça a été le cas nécessairement. Là.
Non, c'est pas le cas. Et il faut comprendre que ces CHSLD privés reçoivent moins de subventions que les CHSLD conventionnés. Donc, les responsables de ces CHSLD privés-là doivent aller chercher de l'argent autrement et ne peuvent pas payer les infirmières auxiliaires et le personnel comme on les paye dans le public. Comme il y a une pénurie, ben aussitôt qu'il y a une place qui se libère au public, la préposée aux bénéficiaires ou peu importe, file au public.
Ouais.
Alors, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre, notamment à cause de la concurrence déloyale du public.
Et Myriam, il y a un dossier intéressant dans la presse ce matin qui s'intitule « Le palmarès du pire » et la démonstration est faite que les CHSLD privés conventionnés n'ont pas moins bien réussi que les CHSLD publics. Le problème semble vraiment être dans les CHSLD privés non conventionnés. Donc, est-ce qu'une solution mitoyenne, comme par exemple Mario Dumont le proposait hier, ce serait pas de faire en sorte que les CHSLD privés non conventionnés deviennent conventionnés plutôt que de nationaliser?
Non. Ben, je suis pas sûr de ça, moi.
Non.
Je suis sûr qu'il faut certainement y avoir, il doit certainement y avoir un système de plainte beaucoup plus efficace. Mais il faut aussi se rappeler que si tu veux te plaindre, tu vas te plaindre où? Tu vas appeler au CIS, au CIUS, ou en tout cas, peu importe, là, comment on les appelle, les hôpitaux, là. Bon, on va appeler l'hôpital, puis là, l'hôpital, lui, il vient de t'envoyer des clients. Ça, il tente pas de savoir que t'es dans la schnoutz. Comprends-tu? Ouais. Les hôpitaux, les CIS, les CIUS sont en conflit d'intérêts quand on les appelle à l'aide. Et ça leur tente pas de le savoir parce qu'ils ont amplifié le problème en t'envoyant des clients que tu n'avais pas avant. Alors, il y a certainement d'abord de la responsabilité qu'il faut donner aux CHSLD privés. Il faut certainement les aider dans le recrutement de personnel, peut-être arrêter de leur voler des employés, peut-être augmenter les subventions pour qu'ils puissent payer leurs employés également. Parce que c'est pas des CHSLD qui font des tonnes de fric. T'sais, moi, j'aimerais beaucoup qu'on publie les états financiers des CHSLD publics, privés, semi-conventionnés, etc. Là. Et on s'apercevrait probablement que la marge de profit, là, c'est le salaire du directeur ou à peu près.
Eh oui.
Ils font pas tant de fric que ça. C'est comme l'espèce de guerre qu'on est en train de livrer aux garderies familiales qui offrent un milieu plus petit, puis parfois des programmes un peu plus originaux. Tu sais, j'ai parlé l'autre jour à une femme qui tient une garderie familiale et qui, elle, le fait bilingue. Oui. Bon, c'est un programme particulier. On peut pas faire ça dans tous les CPE. Moi, pour une, j'aurais pas été capable d'envoyer mes enfants dans un CPE de 40 enfants. Ils avaient besoin de plus de tranquillité que ça. Alors, on est en train de faire une guerre aux garderies familiales privées parce qu'on veut absolument nationaliser tous les enfants.
Le one size fits all.
C'est ça.
Ouais.
Et c'est pas vrai que tous les enfants sont pareils. D'ailleurs, s'il y avait un mode d'emploi avec chaque enfant, ce serait bien simple. Mais tu le sais, là, t'élèves deux enfants, puis tout à coup, tu t'aperçois qu'il y en a un qui n'a pas poussé comme l'autre.
C'est vrai, ils ne virent pas tous pareils, hein? Même dans une même famille.
Non, ils n'ont pas des besoins semblables. Ça arrive différent les uns des autres, ces petites bêtes-là. Comprends-tu?
Ouais, hey, termine là-dessus, Myriam.
Je suis très, très inquiète de voir qu'on est dans le réflexe du tout à l'État. On va nationaliser les vieux comme on a nationalisé les enfants.
Exact, exact. Hey, je veux qu'on prenne quelques minutes, Myriam, pour parler aussi du salaire de Guy Leblanc. Ça a fait jaser depuis le début de la semaine. Ça, c'est le patron d'Investissement Québec. Il y a des critiques qui ont été défendues par le ministre Fitzgibbon. Moi, à la base, je sais pas comment tu vois ça, Myriam, mais moi qui gagne 1,1 million, personnellement, ça me dérange pas. Je sais que c'est un domaine qui est compétitif, mais ça prend des rendements, par contre. T'sais, quand tu gagnes 1,1 million, faut que tu aies des résultats, là.
Moi, je vais te dire, là, c'est un très mauvais timing pour faire ça. Ouais. On est en train de ramer, d'endetter nos arrière-petits-enfants. La plupart des gens ont un peu de misère à arriver de ce temps-ci.
Ouais.
Même si on dit que la COVID nous a fait faire des économies parce qu'on voyage moins et on va moins au restaurant, là. Mais les gens ont de la misère à arriver, c'est comme pas le temps d'aller dire aux gens qui payent ces salaires-là, « Hey, les amis, je vais l'augmenter de 100%. »
Mais c'est jamais le temps, Myriam, en même temps.
C'est jamais le temps. Oui, dans les temps de vaches grasses, peut-être que c'était le temps. Mais j'ai un autre problème avec ça. Ils m'ont pas fait la démonstration que les gens qui sont payés 500 000 $ pour faire la job sont incompétents. Ils m'ont pas fait la démonstration. Moi, je veux bien qu'on double leur salaire si tu es capable de me prouver qu'ils sont incompétents à 500 000.
Mais la vraie question, c'est combien ils rapportent?
Tu gagnes 1,1 million. Il a accepté le contrat à 500 000. Puis là, on me dit, il est tellement incompétent qu'il faut que je l'augmente à 1 million. Voyons donc. Michael Sabia, quand il a dirigé la Caisse de dépôt et de placement, qui est plus importante encore qu'Investissement Québec, là, quand il a dirigé la Caisse de dépôt et de placement, il était payé 500 000 par année, il a jamais augmenté son salaire. Puis, à ma connaissance, il était compétent à faire la job. Alors, si vous voulez augmenter quelqu'un de 100% alors que la plupart des Québécois ont de la misère à arriver actuellement, faites-moi la démonstration que si je le paye pas 1 million, il va être incompétent.
Oui, oui.
Moi, cette démonstration-là, ils me l'ont pas faite. L'autre problème, c'est que dans le milieu bancaire, actuellement, il y a un scandale au Canada. On paye nos banquiers de façon abusive. C'est démontré. Les PDG d'entreprises au Canada gagnent 193 fois le salaire moyen de leurs employés et c'est nettement beaucoup plus que partout ailleurs en Occident, sauf aux États-Unis. C'est la seule exception. Il y a plusieurs organismes, y compris une grosse firme de placement de Toronto, qui a demandé qu'on limite les salaires des banquiers.
Ouais,
l'ancien président du Mouvement Desjardins proposait qu'on le paye 30 fois le salaire du plus petit employé. En Israël, qui n'est pas un pays particulièrement communiste, là, En Israël, il y a une loi qui les empêche d'être payés plus de 35 fois le salaire de leur plus petit employé.
C'est ça, c'est encore... Il faut se laisser, Myriam, puis je comprends ce que tu dis, mais en même temps, je trouve que la question importante, c'est combien ils rapportent? Ça reste la vraie question, puis ça s'applique aux banques
non,
aussi.
Non, c'est pas ça, la vraie question.
Oui, parce qu'on aime ça quand on est actionnaire. Quand on a des actions des banques, on aime ça que ça rapporte, puis qu'il y a des résultats. Tout est là-dedans aussi. On s'en reparle, Myriam, c'est tout le temps qu'on a. Salut, bye, à bientôt. Bye. Myriam Segal, moi, je pense que c'est important. Si quelqu'un rapporte plus que ce qu'il gagne, why not?
Ah oui, c'est ça.
Mais la clé est là. 10,56, on vient.